Le journal, Jérémy Marié. Bonjour Jérémy.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, ce sont des recherches avec une triste issue en Italie. Le jeune randonneur français Simon Gauthier, il a finalement été retrouvé mort hier soir dans un ravin, quasiment 10 jours après son appel de détresse. Son corps doit être récupéré ce matin. Les autres titres, Jérémy.
Avant la Côte Basque pour le G7 en fin de semaine, la Côte d'Azur pour une rencontre franco-russe. Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine cet après-midi au fort de Brégançon. Une volonté de réchauffer les relations entre les deux hommes, même s'il est différent, ne manque pas. Un G7 très attendu, vous allez l'entendre, par les producteurs de vin français. Avec la taxe GAFA, Donald Trump menace en effet d'augmenter les droits de douane sur le vin et les producteurs sont particulièrement inquiets. Les travaux de consolidation de Notre-Dame de Paris, ça y est, ils reprennent aujourd'hui et le temps presse, la cathédrale est loin d'être sauvée. Et puis des jeunes qui se retroussent les manches pour nettoyer leur cité, un clean challenge lancé cet été entre différents quartiers. C'était le cas ce week-end à Sartrouville dans les Yvelines, on va y aller dans ce journal.
Les invités du 6-9 de l'été, 8h moins le quart, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, avec lui les enjeux de la rencontre. Contre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Brégançon cet après-midi. 8h20, le grand entretien avec Cécile Duflot, directrice générale de l'ONG Oxfam. Elle participera au contre-sommet du G7 à Hendaye, sommet des alternatives pour dénoncer le G7 à Biarritz. Vos questions pour Cécile Duflot, dès maintenant, au standard 01 45 24 7000.
France Inter.
Il était au milieu de nulle part, sur la côte, les deux jambes cassées après être tombé d'une falaise. Simon Gauthier n'avait pas pu en dire plus lorsque le matin du 9 août, il avait joint les secouristes avec son téléphone portable. 9 jours de recherche sur ce secteur de la côte italienne, à près de 200 km au sud de Naples. Et finalement, le corps sans vie de ce jeune randonneur français a donc été retrouvé hier soir dans un ravin. Antonino Gallofaro.
Le corps de Simon Gauthier doit être récupéré ce matin. Cela pour des raisons de sécurité des secouristes, comme l'explication. Explique Rosana D'Arienzo, porte-parole du secours alpin.
Le corps se trouve dans un endroit vraiment difficile d'accès, ce qui signifie que les secouristes, pour pouvoir le rejoindre, ont dû descendre avec des cordes en utilisant des techniques d'alpinistes et de spéléologues.
Une fois dans le ravin hier soir, des membres du secours alpin sont restés toute la nuit auprès du jeune Français de 27 ans disparu il y a 10 jours. Comment il doit être évacué, cela sera décidé à la dernière minute. Il y a deux options, Rosana D'Arienzo.
Le corps doit être transporté soit en aval, sur les épaules des secouristes, vers la petite plage qui se trouve à 200 mètres en contrebas, soit en amont, tiré vers un point plus élevé par rapport à l'endroit où il a été retrouvé.
C'est ce même secours alpin qui a retrouvé Simon Gauthier hier en début de soirée. Il a d'abord identifié avec des jumelles un sac à dos, puis non loin, encore sans vie, au fond d'un ravin. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Et désormais, une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes du décès et établir si le jeune randonneur aurait pu être sauvé. Les proches de Simon Gauthier mettent en cause en effet la lenteur, d'après eux, du déclenchement des opérations de secours. Un père de famille qui revenait d'Italie, arrêté hier matin en Haute-Savoie, près du lac d'Annecy. L'homme circulait en voiture, ses deux enfants de 6 et 7 ans sur la banquette arrière et dans le coffre, le corps de sa femme, mère des enfants, morte dans une valise. Le parquet d'Annecy n'a pas souhaité faire plus de commentaires. Une enquête pour meurtre est ouverte. Le père de famille de nationalité française était déjà connu de la justice. Avant cette macabre découverte, la police avait diffusé une demande d'interpellation.
Jérémy, avant le G7 le week-end prochain à Biarritz, Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine aujourd'hui.
Le président russe qui ne sera pas sur la côte basque, mais il sera en revanche sur la côte d'Azur, reçu cet après-midi par Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Une visite de travail dans le cadre du dialogue continu avec la Russie sur l'Elysée. Un dialogue avec aussi des différends qui persistent, Bertrand Galichet.
Moins d'une semaine avant le G7, dont la Russie est toujours exclue pour avoir annexé la Crimée, l'Ukraine, enjeu de sécurité majeur au cœur de l'Europe, est au menu de la rencontre de Brégançon. Emmanuel Macron souhaite que Vladimir Poutine réponde favorablement au président ukrainien qui a demandé à Moscou d'agir sur les séparatistes pro-russes pour une désescalade des combats dans l'est de l'Ukraine. La France veut également inciter la Russie à peser sur l'Iran pour que le régime des Mollahs respecte l'accord de 2015 sur le nucléaire, malgré sa dénonciation par les États-Unis. Emmanuel Macron espère aussi que son homologue russe usera de son influence en Syrie pour aboutir à l'arrêt des opérations militaires à Idlib, dernière enclave rebelle. Enfin, la France parlera des libertés publiques en Russie après la répression des manifestations de ces dernières semaines. À la veille de cette rencontre, la justice russe a par ailleurs libéré de prison et placé en résidence surveillée le banquier français Philippe Delpal, poursuivi pour une affaire de fraude qu'il dénonce, l'un des dossiers qui empoisonne la relation entre les deux pays.
Une rencontre franco-russe aujourd'hui, avant donc le G7 de la fin de semaine, événement diplomatique avec comme objectif affiché la lutte contre les inégalités. Un autre sujet doit être abordé à Biarritz, il provoque pas mal de tensions, c'est la fameuse taxe GAFA votée par la France le mois dernier, une taxe de 3% sur les revenus des géants du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon. Grosse colère de Donald Trump, en représailles, le président américain menace d'augmenter les droits de douane sur le vin français. Manuel Ruffez, en ce moment, les producteurs de vin sont dans l'attente et plein d'inquiétudes.
Ils ne prennent pas le problème à la légère, les professionnels français du vin. Les États-Unis représentent en valeur leur premier débouché à l'export, plus d'1,5 milliard d'euros en 2018. Alors quand le président américain menace d'augmenter les droits de douane, Thomas Montagne, le président de la Confédération européenne des vignerons indépendants, s'inquiète surtout pour les vins les moins chers.
On sait que le très grand cru, comme d'habitude le luxe absolu, n'a pas de problème, comme tout est très contingenté. Si jamais ça n'est pas consommé aux États-Unis, ça le sera ailleurs. Ce sont aussi des vins de garde, même de très grande garde souvent, donc on peut attendre avant de les vendre. C'est beaucoup plus certainement les vins de moyenne gamme, d'entrée de gamme encore pire, qui vont faire les frais de l'opération.
La France exporte au total 14 millions d'hectolitres de vin chaque année. Derrière les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, le deuxième client. Et nouveau souci, le Brexit.
Quand on fait la somme des deux problèmes qui pourraient nous tomber sur le dos ensemble, donc Brexit et Trump, on a nos deux premiers marchés en valeur. Donc c'est assez inquiétant pour la viticulture française et européenne, parce que nos amis italiens, espagnols aussi, et le reste de l'Europe sont dans le même cadre.
Ils espèrent tout de même, ces professionnels, que le G7 et les dernières nouvelles de l'économie mondiale inciteront Trump à la prudence. Mais bien malin, qui pourrait dire ce que Trump va faire, résume Thomas Montagne.
Donald Trump qui lance un appel à la prudence, justement vers la Chine, plutôt même un avertissement, le président américain l'assure. Un Tiananmen à Hong Kong nuirait à un accord commercial entre les deux nations. Et hier, des centaines de milliers de manifestants pro-démocratie, peut-être plus d'un million, ont défilé dans les rues de Hong Kong pour dénoncer une nouvelle fois le poids de la Chine.
7h07, le journal Jérémy Marié. Jérémy, quel avenir pour la centaine de migrants réfugiés à bord de l'Open Arms.
Mais c'est toujours l'incertitude ce matin. L'Open Arms, toujours au large de l'île italienne de Lampedusa, avec 105 adultes et 2 enfants, certains à bord du navire depuis plus de 2 semaines maintenant. Hier, l'Espagne a pourtant formulé une offre dans un port au sud de l'Andalousie. Mais l'ONG qui gère l'Open Arms a refusé, Pierre Chaperon.
Trop loin, trop long, la solution proposée par Pedro Sanchez d'accoster à Algeciras a été rapidement refusée par l'Open Arms. Plus de 1700 km séparent les côtes de Lampedusa où se trouve le bateau au port espagnol. Soit 5 jours de navigation en plus. Solution irréalisable selon le fondateur de l'ONG propriétaire de l'embarcation, Oscar Camps, alors que la situation à bord est selon lui insoutenable. Oscar Camps qui en appelle aux gouvernements européens sur Twitter pour trouver une solution et qui fustige la position du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. De quoi avez-vous besoin de plus pour votre campagne politique? Des morts, demande-t-il. Bref, aucune solution pour le moment pour l'Open Arms et ses 107 passagers coincés à quelques centaines de mètres des côtes italiennes. Madrid, Pierre Chaperon, France Inter.
Les prochaines heures s'annoncent capitales sur l'île espagnole de Grande Canarie. Un violent incendie a déjà ravagé 3400 hectares de forêt depuis samedi. Un feu extrêmement virulent et les prévisions météo ne sont pas bonnes, avec aujourd'hui des vents violents, des températures élevées. L'incendie qui frappe Grande Canarie n'a pas fait de blessés, mais 5000 personnes ont dû être évacuées hier d'une zone touristique.
Un incendie toujours présent dans les esprits, c'est celui de Notre-Dame de Paris.
Et c'est aujourd'hui que vont reprendre les travaux de consolidation de la cathédrale, un chantier à l'arrêt depuis le 25 juillet à cause des risque de contamination au plomb. Selon le ministère de la Culture en charge de ces travaux, toutes les précautions ont été prises pour assurer désormais la sécurité des ouvriers et des riverains. Mais 4 mois après l'incendie, le temps presse. Notre-Dame n'est toujours pas sauvée, Yann Gallic.
Le risque de voir Notre-Dame s'effondrer n'est pas encore totalement écarté. La cathédrale fait toujours l'objet d'un arrêté de péril. Cet été, plusieurs pierres sont tombées des voûtes de la nef à cause de la canicule. Les travaux doivent absolument reprendre pour consolider l'édifice, explique-t-on au ministère de la culture. En plus des voûtes, il faudra aussi renforcer les arcs-boutants, sans oublier le démontage de l'immense échafaudage qui entourait la flèche de Notre-Dame. À cela s'ajoutent les risques liés au plomb. La semaine dernière, les opérations de décontamination des sols ont commencé aux abords de la cathédrale. Selon le ministère de la Culture, les prescriptions de l'inspection du travail ont été prises en compte. Sur le chantier, les mesures de protection seront renforcées dès aujourd'hui, avec des douches ou encore des tenues jetables pour les ouvriers et des procédures très strictes de décontamination à la sortie du chantier. La reprise des travaux se fera de manière progressive dans les prochaines semaines. Délicate et complexe, la phase de sécurisation de Notre-Dame devrait durer jusqu'au printemps 2020.
La précision de Yann Gallic pour France Inter. Près de 3 millions de familles vont en bénéficier. L'allocation de rentrée scolaire est versée demain. Une allocation, si vous avez des enfants entre 6 et 18 ans, est soumise également à votre niveau de revenu. L'ARS qui varie selon l'âge, 368 euros pour un enfant entre 6 et 10 ans, jusqu'à 402 euros pour un ado entre 15 et 18 ans. En ce moment, pour les footballeurs du Paris Saint-Germain, tout semble être une question de départ qui ont du mal à se faire. Le départ de Neymar, toujours ici hypothétique, et maintenant le départ de la saison de Ligue 1 qui devient problématique. Paris battu hier soir dès la deuxième journée du championnat. Une défaite logique de 2-1 sur la pelouse du Stade Rennais.
Ce n'est pas du sport, Jérémy, mais c'est une vraie compétition dans laquelle se lancent différentes cités.
Quelle sera la cité la plus propre cet été? C'est le Clean Challenge, le nom de cette compétition lancée depuis le début du mois d'août. Des jeunes de plusieurs quartiers se sont lancés ce défi un peu partout en France. Tout est parti de Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise. Il y a eu Nancy, Roubaix, Marseille, Montpellier, Colombes. Et ce week-end, c'est le quartier des Indes à Sartrouville dans les Yvelines qui s'est lancé dans ce Clean Challenge. Et vous y étiez pour France Inter, Nicolas Fillon.
C'est le début du Clean Challenge. Toutes les personnes qui n'ont rien à faire, merci de nous rejoindre et de nous donner un petit coup de main, s'il vous plaît.
À l'initiative, ni association, ni politique, ce sont les grands frères de la cité qui ont mis la main à la pâte pour nettoyer le quartier. Pirou, 27 ans, est l'un de ses médiateurs. Il a toujours vécu ici et a prévenu ses potes via Snapchat et WhatsApp pour rameuter du monde.
C'était tellement beau et logique en fait que les habitants d'une cité nettoient leurs déchets. On se sent mis de côté, donc on prend des initiatives comme cela pour continuer à vivre, quoi.
Et pour ce Sartrouville Clean Challenge, ils sont aidés d'une bonne vingtaine de gamins de la cité. Ce sont les grands qui coordonnent.
Ramassez pas les bouts de verre, les enfants.
Vous avez tous des gants ?
Donne-leur une pince.
Et les petits qui ramassent sac poubelle à la main.
Allez, c'est parti, on y va, tout ensemble.
Finalement, la pêche a plutôt été bonne.
J'ai ramassé des plastiques, des bouteilles, des papiers chewing-gum.
J'ai ramassé un sac avec de l'aluminium dedans. Du maïs avec un truc de Mr. Freeze, une banane et un mouchoir.
Mais ce n'est pas qu'un jeu pour Pierrot.
Et c'est vraiment pour marquer le coup dans la tête de ces petits jeunes. C'est pas aujourd'hui ma cité va briller, demain je la salis. Aujourd'hui elle brille, demain je l'entretiens et pourquoi pas dans quelques mois relancer une opération comme celle-là, pour faire attention à où on vit, tout simplement.
Un reportage de Nicolas Fillon et ce week-end, pas moins de 36 sacs poubelles ont été remplis dans ce quartier de Sartrouville pour ce Clean Challenge.
C'était le journal de Jérémy Marillier. La circulation au PC Mobilité, Kevin Dufraîche. Kevin, deux accidents dans le département de l'Yonne.
Oui, d'abord sur l'autoroute A19 à Savigny-sur-Cléris en direction de Sens. C'est un poids lourd seul qui est impliqué. Et puis sur l'A6 dans le sens Paris-Lyon, c'est une voiture impliquée cette fois à Moneto, juste à côté d'Auxerre. À noter aussi les derniers retours de vacances. Aujourd'hui, l'Île-de-France est classée orange par Bison Futé.